C'était un hameau en plein champ, greffé aux parcelles de canne dont les plants étaient déjà hauts. Au bout d'une étroite piste de terre qui se perdait sur la gauche, à moins d'un kilomètre de la route montant de la capitale vers le nord, de l'autre côté du Rio Jaina. Au loin, à l'ouest, l'horizon butait sur des collines ondulantes piquetées de cocotiers qui dessinaient les premiers contreforts de la cordillère centrale. Un vert plus sombre contrastait avec celui, tendre, des prairies et des plantations. Par là-bas, derrière, c'était Haïti, le pays qu'ils venaient de quitter et qui déjà leur manquait. Le camion à bout de souffle s'arrêta dans un dernier chaos qui projeta leurs corps ruisselants de sueur les uns contre les autres. Sa plateforme arrière s'ouvrit et il déchargea son contingent de bras à l'ombre d'un immense manguier, face à une double rangée de baraquements de bois de palme au toit de zinc. Ils étaient arrivés. Ils s'extirpèrent du véhicule, hébétés, dans un état proche de la catatonie. L'endroit avait la chaleur d'un four. Sous la lumière blanche du soleil de midi qui gommait toutes les couleurs, le paysage déconfit avait fondu en petites touffes de poussière, sans parvenir à masquer la laideur du décor. Non loin, une haute cheminée crachait un panache d'épaisse fumée noire qui assombrissait le ciel azur. La raffinerie. Maria Carmen balaya du regard le panorama, sans un mot. Une pierre comprima son cœur et dévala dans son estomac. Elle ne s'attendait pas à ça. Ça, c'était cette enfilade de baraques délabrées. Elle apprendrait plus tard que c'était les anciennes étables d'un élevage de Trujillo. En guise de comité d'accueil, un attroupement de femmes mal attifées, armées d'un balai ou chargées d'une bassine. Un essaim d'enfants à moitié nus, maigres à faire peur, au ventre gonflé. De vieillards statufiés sur de vilaines chaises. Des chiens faméliques se morfondaient, couchés sur le flanc, le museau assiégé de mouches. Un coq étique fouillait du bec la terre, sa crête pendait sur le côté. Deux plumes hérissaient son croupion. Un chaudron noirci chauffait sur un lit de braise devant un porche. Des pièces de linge défraîchies séchaient, pendillant à des piquets. Un vague relent de pourriture et d'excréments flottait dans l'air, mêlé à une entêtante odeur de sucre brûlé. Mais ce que Maria Carmen renifla, c'était le parfum de la misère. Son regard s'agrippa à un arbuste orné de rubans chamarrés, au tronc souillé de coulures de cire. L'arbre marabout dressait tel une potence. Les gris-gris des croyances vaudoues la réconfortèrent, un petit peu. Ils étaient là désormais, et tout irait bien. On le leur avait promis. Une grosse camionnette apparut. Un contremaître, un haïtien, peut-être un ancien coupeur qui avait pris du galon, en descendit. Il fit décharger une petite table et une chaise de bois qu'il installa au centre de l'esplanade. Il posa un épais registre, s'assit, et d'une écriture maladroite enregistra les nouveaux ouvriers. Nom, âge, lien entre eux. Puis il tria le troupeau silencieux qui avait resserré ses rangs dans un réflexe animal. D'un mouvement net de sa trique de goyave. Les hommes seuls à droite, les couples à gauche. Les femmes seules, elles étaient trois, à l'écart.
« Yo allé tout droit na bordel. Celles-là, elles vont tout droit au bordel. »
Bougonna d'un air désolé une ancêtre toute fripée, agrippée à un bâton qui lui tenait lieu de béquille. Maria Carmen eut un hoquet. Elle venait de comprendre ce qui lui avait échappé jusque-là. Ses filles jeunes et sans attache n'avaient pas été recrutées pour les travaux des champs. À Maria Carmen et André, le contremaître attribua une cellule dans une bicoque tout en longueur, un taudis de planches et de torchis craquelés, au sol en terre battue. Trois murs aveugles, une porte de tôle ondulée, mal ajustée, qui laissait passer le jour en haut et en bas, surmontée d'une plaque de bois portant le numéro 9. Maria Carmen lâcha un petit soupir de soulagement. C'était son numéro porte-bonheur. À l'intérieur, une paillasse malodorante sur un chalit de bois, une table branlante et un tabouret. Un seul. Sordide et insalubre. Pour la cuisine, c'était dehors. Pour les besoins aussi.
Tout ça pour ça?
Cet accablant constat s'imposa à Maria Carmen tandis qu'elle déposait son baluchon sur le lit. Son estomac, vide depuis la veille, se rappela à elle dans un spasme. Accablée, la jeune femme se mordit les lèvres et dut se reprendre pour retenir ses larmes. Ils étaient là désormais, et tout irait bien. On le leur avait promis. Dans le regard méprisant des anciens, ils étaient des Congos. des ignorants sans la moindre idée des us et coutumes du Batei, parqués dans une zone réservée aux nouveaux, désorientés par ce monde qu'ils découvraient. Ils devraient trouver leur marque, et le plus tôt serait le mieux. Les anciens, eux, se serraient les coudes, jouissant de l'aura de qui a de l'expérience. Ils étaient installés dans les meilleures zones et les familles bénéficiaient de cases individuelles. Les contremaîtres avaient trouvé ce moyen, créer des clans pour entretenir des rivalités artificielles. Le quotidien se mit en place. Au fil des jours, chacun semblable au précédent, les nouveaux venus apprirent la loi du Batei. C'était la loi de l'exclusion, de la faim, du profil bas, du désespoir. Celle des 2 tonnes quotidiennes de canne par tête, sous la menace muette des coups de fouet, dont avaient été roués, pour l'exemple, 2 ouvriers qui avaient tenté de s'enfuir. C'était un endroit à l'écart du monde, un hameau autarcique où les règles et l'ordre, le logement, les chemins, le transport, le magasin, l'infirmerie étaient assurés par la compagnie. Un monde lent et pesant, comme le pas des bœufs qui ahannaient en tirant les chariots rouillés aux essieux grinçants. Destiné au transport des fagots de canne, ils ramassaient les hommes armés de leurs machettes avant les premières lueurs du jour pour les ramener à la nuit tombée, la tête basse, l'estomac vide, le corps anéanti, les bras endoloris, les mains couvertes d'estafilades, le dos cassé de s'être penché au plus près du sol pour couper les tiges à ras, les épaules moulues d'avoir coupé, 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 mis en botte, chargé la canne. Un labeur de bête sous un soleil d'enfer. Après leur départ, le Batei devenait le territoire des femmes qui s'apostrophaient d'un compartiment à l'autre. Elles avaient construit autour de leur infortune un mur de solidarité. Elles se serraient les coudes. La misère n'avait pas réussi à anéantir leur bonhomie, pas encore gâté leurs âmes. Elles égrenaient leurs souvenirs et parlaient de là d'où elles venaient. Côte de Fer, Terre Noire, Grande Saline, Belle Fontaine, Gros Labime. Elles avaient improvisé des métiers. Coiffeuse, sage-femme, couturière, infirmière, cordonnière. Elle s'approvisionnait au colmado de la centrale, une banane plantain, une racine de manioc, une tasse de riz, où le bodeguero décomptait les achats de la paix de l'Eurom au prix fort. De toute façon, il n'y avait pas de peso. La seule monnaie d'échange était des jetons qui ne valaient que sur la plantation. L'argent circulait en circuit fermé, sans que nul n'en voie jamais la couleur. Une économie en vase clos. Elle cuisinait, lavait le linge, grattait la terre d'un minuscule conoco potager, grignotait sur les terres de la plantation, jetait des épluchures aux poules, tressait des chapeaux en palme. Elles arbitraient les chamailleries des enfants, certains pas plus hauts que 3 pommes, qui poussaient comme des herbes folles, livrées à eux-mêmes, et dont les jeux brouillons se terminaient en genoux égratignés et en pleurnicheries. Elles nourrissaient les laissés pour compte, les grimoun, que les contremaîtres appelaient viejos, certains presque aveugles, d'autres bancroches, tous trop âgés pour travailler au champ, qui restaient là, prostrés sur un banc, prisonniers à perpétuité. Parfois, dans les ornières des chemins caillouteux, un chariot se renversait. On ramenait les blessés que les femmes soignaient à coups d'emplâtre, de décoction et d'incantation, tout en se lamentant une journée de travail perdue. Et surtout, elles cancanaient. Les cloisons en planches de leurs chambres n'étouffaient rien des affaires des uns et des autres. Les secrets n'existaient pas plus que l'intimité. C'était le règne du commérage. Tout le monde savait tout sur tous les autres. Le dimanche était jour de répit. Le claquement des dominos remplaçait celui des fouets à bœufs. Les hommes partageaient une bière bien méritée en fumant du mauvais tabac dans leur cachimbo. Certains dépensaient leurs jetons à la maison de Borlette où ils jouaient les numéros dont ils avaient rêvé. Qui sait, avec un peu de chance. Mais voilà, ils avaient perdu. Nul ne gagnait jamais, ou si peu. Ce n'était qu'un moyen de leur soutirer le peu qu'ils gagnaient. On sacrifiait une poule blanche, on chantait au son des tambours vaudous, on se contorsionnait dans des farandoles endiablées au rythme frénétique qui lessivait l'âme des regrets de Haïti. Le soir, l'un d'entre eux, autoproclamé « Racontez histoire », les tenait en haleine autour d'un maigre feu. Leur regard nostalgique se tournait alors vers le soleil qui disparaissait en enflammant le ciel d'une explosion de rouge, de pourpre, d'oranger. Ils rêvaient de leur terre natale qui se déployait, loin derrière la barrière infranchissable de la montagne. Puis, ça recommençait. Ils retournaient à leur dure réalité, couper, fagoter, manger, dormir, survivre. Une nouvelle journée se consumait, puis une autre, et encore une autre.